Rapidement, nous allons recommencer. Nous allons recommencer par une réflexion sur la présidentialisation des démocraties. Pour être complet dans les éléments de conclusion de ce cours, il aurait fallu aussi donc que je parle des formes de banalisation de l'état d'exception. Il aurait fallu que je parle aussi des modes de banalisation, disons, du pouvoir technocratique. Mais ces questions étant peut-être plus connues, j'ai choisi plutôt de mettre l'accent plus longuement sur la question de la présidentialisation des démocraties. Après 1918, le renforcement de l'exécutif s'était partout opéré en Europe et dans les démocraties sous la pression des nécessités. Sauf le cas de la République de Weimar, qui avait mis en place une élection de la tête de l'exécutif au suffrage universel, ce renforcement ne se traduira pas en termes constitutionnels en Europe. Dans le cas français, j'ai signalé les changements d'ordre technique, consistant par exemple dans la mise en place d'une présidence du Conseil renforcée ou dans l'usage progressivement banalisé du recours aux décrets-lois. Après 1945, le spectre du nazisme et du fascisme devait conduire à repousser en Europe tout ce qui pouvait s'apparenter à une forme de personnalisation du pouvoir. En Allemagne et en Italie fut ainsi opéré un retour au régime des partis et au parlementarisme les plus traditionnels. L'instabilité chronique qui en résulta dans le cas italien soulevait beaucoup d'interrogations et critiques, mais elles furent au moins en partie secondarisées par le contexte de forte croissance économique de l'époque. On parlait du miracle italien, souvenez-vous. Et le dynamisme de la société civile constitua alors en Italie le moteur du développement, ce dernier ayant en outre aussi pu s'appuyer sur quelques réformes structurelles mettant en place de fortes institutions interventionnistes dans le domaine industriel. Il faut aussi noter que dans le cas italien, comme sous la Troisième République en France d'ailleurs, la succession rapide des ministères, liée au changement permanent d'alliances partisanes, s'est opérée dans le cadre, lui, d'une assez grande stabilité de la classe politique gouvernante. La classe politique restait et les ministères passaient, pourrait-on dire. Les gouvernements changeaient, mais les titulaires des portefeuilles ministériels restaient souvent les mêmes. Ce retour au parlementarisme ne s'est pourtant pas opéré sans susciter de nombreuses critiques. Dans le cas français, on a ainsi rappelé l'insistance avec laquelle tous les mouvements de la résistance s'étaient retrouvés pour dénoncer la crise de l'autorité dont avait souffert le pays sous la Troisième République et appelé en conséquence à un renforcement de l'exécutif, à l'instauration d'un gouvernement solide. Mais ce sera en fait surtout l'État qui se renforcera pour répondre à cette exigence, dans la veine de ce que j'ai expliqué précédemment. Mais cet accomplissement technocratique de l'exécutif, couplé avec le retour à un parlementarisme classique, n'allait pas sans susciter d'interrogations. Mais elles ne trouvèrent pas de réponse. L'évolution des positions d'un Léon Blum en la matière a bien témoigné de cet embarras démocratique dans le cas français. En 1917-1918, on l'a vu, Blum s'était fait l'avocat d'une reconsidération radicale du pouvoir exécutif dans la direction de ce qui n'avait pas été loin de qualifier de monarchie républicaine. Devenu, après le congrès de Tours, le chef de file des socialistes, il adoptera un langage beaucoup plus prudent. Cependant, en présentant en 1927 le programme constitutionnel de la SFIO, il soulignait encore fermement « Nous ne confondons pas le parlementarisme avec la démocratie politique. Il sera toujours dans le même état d'esprit au début de la guerre. » Notant en 1941 dans « À l'échelle humaine », écrit dans sa prison de Bourassol, je le cite, « démocratie et parlementarisme ne sont à aucun degré des termes équivalents et interchangeables. » Il dira même « le parlementarisme n'est pas essentiellement démocratique. » Et d'en inférer, la conclusion est que le régime parlementaire ou représentatif ne constitue pas la forme de gouvernement démocratique exactement adaptée à la société française. Et il faut par conséquent se mettre en quête d'une forme qui lui convient mieux. Il manifestait alors son attirance explicite pour les modèles suisses et américains, souhaitait donner une place importante à l'institution du référendum et entendait clairement assurer au pouvoir exécutif, je le cite, une autorité indépendante et continue. Mais ces réflexions restaient simultanément embarrassées, puisque c'était aussi les insuffisances propres au parlementarisme français qu'il soulignait, considérant que l'absence de partis fortement structurés et disciplinés avait conduit dans l'Hexagone à la multiplication des jeux personnels et perturbateurs. Toutes ces ambiguïtés seront levées chez lui après la Libération, puisque dès 1946, il écrira, à rebours de ce que je viens de citer, « Chez nous, jusqu'à nouvel ordre, il n'y a pas de démocratie viable et stable en dehors du régime parlementaire ». L'élaboration de la Constitution de la IVe République témoignera avec éclat du consensus qui s'était établi sur ce point entre les différentes forces politiques du pays. Il vaut la peine de rappeler les traits essentiels. On le sait, la Constitution de la IVe République s'est faite en deux temps. Dans un premier temps, le premier projet de Constitution, adopté le 19 avril 1946 par l'Assemblée nationale constituante, avait exprimé le choix d'un parlementarisme radical. Il prévoyait en effet l'élection du président du Conseil des ministres par l'Assemblée nationale elle-même, à la majorité absolue des députés. Et les communistes et les socialistes s'étaient avérés les plus chauds défenseurs de cette procédure de désignation, passant outre les fortes objections techniques qui avaient alors été formulées par René Capitan, un des grands constitutionnalistes de la période. Si l'existence d'un président de la République était maintenue dans ce premier projet de 1946, ce dernier était d'abord clairement institué dans sa dépendance vis-à-vis du Parlement, puisqu'il était prévu qu'il soit élu par la seule Assemblée nationale, à une majorité des deux tiers, donc élection différente de celle de la Troisième République. Et le compte-rendu de la Commission de la Constitution note d'ailleurs sur ce point qu'aucun orateur n'avait proposé l'élection au suffrage universel du président de la République en 1946. Ses prérogatives à ce président étaient d'ailleurs aussi singulièrement réduites. Et ce n'est qu'après d'âpres discussions qu'il fut admis qu'il puisse présider le Conseil des ministres, le Conseil supérieur de la Défense nationale et le Conseil supérieur de la magistrature, tandis que le droit de grâce lui était refusé. Toutes ces dispositions, qui mettaient pratiquement en place un pur régime d'assemblée, avait été conçu comme l'expression achevée d'un progrès démocratique, à gauche ou particulièrement. Les réticences du MRP trouvèrent cependant un écho suffisant dans l'opinion pour que ce premier projet de constitution, soumis à référendum, soit finalement repoussé le 5 mai 1946 par 53% des voix. Un nouveau projet fut donc mis en chantier. Il réduisit un peu la radicalité du régime d'assemblée précédemment projeté à la suite de négociations avec le MRP. Il était ainsi prévu que le président devienne élu par les deux assemblées. L'Assemblée nationale était alors assortie d'un Conseil de la République qui redeviendra le Sénat ensuite. Et il était en outre, ce président, fait retour à la nomination du président du Conseil par le président de la République. Mais il restait privé du droit de dissolution. Adopté par le référendum du 13 octobre 1946, de justesse d'ailleurs, puisqu'il y a eu 8 millions de voix pour, il y a eu 9 millions de voix pour, 8 millions de voix contre, 6 millions d'abstentions et 1 million de bulletins blancs. Ce qui fait que cette constitution de la 4e n'était adoptée que par 36% des inscrits. Et ceux qui avaient estimé le plus mauvais ce texte, c'était les gaullistes, qui avait estimé que son vice principal est de ne pas avoir mis en place un chef de l'État qui en soit véritablement un, selon la formule de De Gaulle. Et la constitution de la IVe République fit ainsi revenir le pays au vieux modèle. Les institutions mises en place n'étaient pas en elles-mêmes très différentes de celles qui prévalaient dans la plupart des autres pays européens. Mais comme en Italie, la fragmentation du système des partis rendait ce régime particulièrement instable, peu apte à fonder des majorités clairement constituées durables à l'opposé des pays dans lesquels le modèle bipartisan, la réalité bipartisane était plus forte. Les démocraties occidentales paraissaient ainsi solidement inscrites dans le régime d'assemblée dans les années 50. L'expérience de Weimar n'était vraiment qu'une lointaine parenthèse à laquelle ne pouvaient être liées que de sombres images. Si l'on met à part le cas américain, il n'y avait alors que deux pays, l'Irlande et la Finlande, dans lesquels le chef de l'exécutif était élu au suffrage universel. Dans le premier cas, l'Irlande, l'introduction de la procédure avait été indissociable de la conquête de l'indépendance en 1937 et symbolisa l'accession à une nouvelle citoyenneté pour les habitants du pays. Dans le cas finlandais, après la proclamation de l'indépendance en 1917, la Constitution de 1919 mit en place une élection populaire, mais elle était organisée sur le modèle américain avec un système de grands électeurs. Et ces cas estimés particuliers de petits pays n'avaient nullement alors été discutés comme un modèle, alors qu'avait été par exemple longtemps discuté le modèle suisse ou le modèle américain dans leur genre. Et c'est la Ve République qui va marquer sur ce point, au niveau mondial, une rupture décisive. La Ve République française a progressivement banalisé l'attraction vers une forme de présidentialisation des démocraties en l'autonomisant de la figure de son père fondateur et en la coupant de ses précédentes adhérences césaristes. Il convient évidemment de revenir aux origines du régime pour bien en appréhender les ressorts. Premier élément structurant, la nécessité d'une affirmation vigoureuse de l'exécutif a été au cœur du projet constitutionnel gaulliste. Je cite De Gaulle. « Je crois qu'au XXe siècle convient l'État fort de la démocratie plutôt que l'État faible et divisé auquel aspiraient les libéraux. » Cette affirmation a d'abord eu une dimension positive, l'affirmation de la prééminence d'un pouvoir directement actif qui apparaissait nécessaire dans une société moderne en mouvement permanent. Mais la volonté gaulliste de distinguer l'exécutif dans le double sens d'une séparation des pouvoirs et de la manifestation d'une prééminence a aussi été liée à une vision dépréciative du législatif. Il y a donc eu véritablement les deux mouvements. Une reconnaissance, elle n'était pas nouvelle, elle avait été formulée par beaucoup, de la nécessité d'un exécutif autonome, mais aussi une théorisation, la dépréciation du Parlement. Le Parlement était accusé d'attachement mécanique à l'univers partisan au premier chef. Ce Parlement, souligne ainsi De Gaulle, réunit la délégation des intérêts particuliers. De par sa structure unifiée, l'exécutif pouvait, à l'inverse, avoir pour fonction naturelle de représenter la volonté générale et l'unité du pays. Cela avait, aux yeux du général, une double conséquence. De lier d'abord la fonction du chef de l'État à une capacité d'incarnation et de lui donner ensuite un type de légitimité qui l'élève au-dessus des partis. Dès 1946, le général de Gaulle appelait ainsi à faire élire le président par un collège beaucoup plus large que le Parlement. On notera d'ailleurs qu'il critiquait sévèrement pour cette raison l'institution présidentielle américaine, considérant que le processus électoral restait outre-Atlantique trop largement inféodé aux appareils partisans. En même temps, disait-il, qu'insuffisamment empreint de gravité à cause du mode d'élection médiatique tapageur. Mais il n'était pas encore question à ce moment-là pour De Gaulle d'une élection du président de la République au suffrage universel. Et on peut d'ailleurs noter qu'aucun des multiples projets constitutionnels rédigés par les mouvements de résistance n'avait envisagé une telle procédure. Le spectre du césarisme restait fortement présent dans les esprits et les connaisseurs de l'histoire du XIXe siècle avaient alors rappelé que l'expérience de 1848 n'avait pas été concluante. On trouve cela mentionné à plusieurs reprises dans des projets de la résistance, notamment ceux qui ont été repris dans le livre de Jean-Éric Calon, Les projets constitutionnels de la résistance. Les choses en étaient restées là en 1958. Et il faudra attendre 1962 pour qu'un référendum, on le sait, mette en place le système d'une nomination du président par le peuple. Comment expliquer cette lenteur à mettre en place une procédure qui semble maintenant, à distance, si intimement liée à la vision gaulliste de la démocratie? Il y avait d'abord certes des facteurs techniques qui qui rendait en 1958 la chose difficile. Le chef de l'État était en effet alors simultanément président de la République française et président de l'Union française. La Constitution de la Ve République, c'est ce qu'on a un peu oublié initialement, avait formellement une dimension de type fédéraliste. Et certains grands constitutionnalistes proches du régime, comme René Capitan, parlaient même à l'époque de fédération franco-africaine. Et une élection au suffrage universel aurait ainsi posé la difficile question de la détermination du corps électoral. Si le président est à la fois président de la République et président de l'Union, il doit donc être élu par tous les membres de l'Union. Cette question montrait que soulever des difficultés, et sans compter le problème posé dans le cas algérien, qui avait conduit dans un premier temps, ne serait-ce que pour ce motif technique, à repousser l'élection au suffrage universel, indépendant, je dirais, des motifs politiques évidents d'accusation de césarisme. Mais il y avait bien d'autres raisons qui expliqueront que la question n'ait pas été vraiment posée en 1958. Même si de Gaulle a eu ensuite l'occasion de dire à plusieurs reprises qu'il avait, je le cite, « depuis longtemps », cru que le suffrage universel était le seul mode possible d'élection du président, il a lui-même reconnu que des facteurs tactiques et stratégiques l'avaient conduit à la prudence. Alors que nombre de ses adversaires dénonçaient en lui un dictateur potentiel, il dira ainsi qu'il avait estimé prudent de tenir compte de ses préventions. Il précisera aussi avec un certain orgueil que la question le concernant lui était apparue seconde étant donné sa stature. Au surplus, soulignera-t-il ainsi pour expliquer sa position en 1958, « J'avais l'intention d'assumer moi-même au départ les fonctions de chef de l'État et en raison de l'histoire d'hier et des circonstances d'à présent, la façon dont j'y accéderai ne serait qu'une formalité sans conséquence quant à mon rôle. Mais en considération de la suite, j'étais résolu à parfaire l'édifice à cet égard à la fin de mon septennat. » On peut aussi estimer, de nombreux commentateurs l'ont fait, que les quatre référendums organisés de 1958 à 1962 avaient en quelque sorte constitué une sorte de substitut à une élection au suffrage universel en consacrant de fait le lien entre le peuple et le régime dirigé par le général de Gaulle. Ce sera quelque chose que nous aborderons spécifiquement dans une des séances du séminaire. En 1962, le contexte avait changé, la décolonisation était pratiquement achevée et l'Algérie était devenue indépendante. L'obstacle technique, si je puis dire, était donc levé. De Gaulle pouvait aussi commencer, parallèlement, à se préoccuper d'assurer l'avenir de la Ve République. Considérant que ses successeurs ne disposeraient pas de ce qu'il appelait son équation personnelle, il se décida donc à soumettre la réforme au suffrage universel. Et vous le savez, c'est une décision qui a été prise très brutalement à la fin du printemps 1962 pour un vote au début de l'automne 1962. Les débats furent passionnés. Le rejet fut viscéral dans les milieux de gauche. Le Parti communiste, qui avait déjà parlé de coup d'État, de dictature militaire et de risque fasciste en 1958, redoubla d'indignation à l'annonce du projet de référendum, tout en mettant alors surtout en avant la dénonciation plus vague de « pouvoir personnel », accusation susceptible de rallier une large approbation. Le Parti communiste se fit simultanément le défenseur le plus ardent du parlementarisme classique. Dans les rangs socialistes, on relisait les avertissements que Léon Blum avait adressés à ses amis en 1946, après le discours de Bayeux du général. Blum avait alors dit « ce que le général de Gaulle appelle un chef véritable, c'est un président de la République qui, sans être responsable devant l'Assemblée, posséderait cependant un pouvoir propre et réel. Un président de la République dont les ministres principaux et le président du Conseil lui-même seraient les représentants ou les émanations, une telle conception non seulement crée un pouvoir personnel, mais sa mise en œuvre exigerait que toute la vie publique soit dominée par ce pouvoir personnel. Et quel est le pouvoir, quel est le républicain qui pourrait consentir à cela ?» Donc ce texte de Blum circulait beaucoup à l'époque. Et Blum de conclure d'ailleurs, « toute souveraineté émanant nécessairement du peuple, il faudrait descendre jusqu'à la source de la souveraineté, c'est-à-dire remettre l'élection du chef de l'exécutif au suffrage universel, comme dans la Constitution américaine, comme dans la Constitution de 1848, là est la conclusion logique du système. Mais en France, où le passage du pouvoir présidentiel au pouvoir personnel est l'un des périls connus et éprouvés qui menacent la démocratie, l'attribution du pouvoir exécutif à un homme par le suffrage universel s'appelle le plébiscite. Et non au plébiscite sera effectivement un des slogans majeurs de la campagne. Pierre Mendès-France, pourtant fort critique de la IVe République, jettera aussi toutes ses forces dans la bataille pour dénoncer le surcroît d'autorité qui écraserait tout à ses yeux. S'il y avait un président gouvernant, dans la République moderne, il parlera ainsi de monarchie élective, de concentration du pouvoir entre les mains d'un homme qui délibère seul, qui ordonne seul, qui arbitre seul. Il ajoutera « Un tel mode d'élection ne peut offrir un élément de contrôle politique sérieux. Il tend même à dépolitiser le corps électoral. Il le pousse à démissionner, à prendre l'habitude d'aliéner sa souveraineté. C'est donner aux aventuriers une chance inespérée. » Il s'abritera lui aussi derrière une phrase du discours de Bayeux pour justifier sa réticence. François Mitterrand, on le sait, se déchaînera dans son livre, publié un tout petit peu plus tard, qui s'appellera « Le coup d'État permanent ». Il était question, à longueur de page, que de réécriture du 2 décembre, de pouvoir exécutif domestiqué, de dictature, de monarque entouré de corps domestiques et même de propagande totalitaire. Pour celui qui allait se présenter peu après devant les urnes à l'élection présidentielle de 1965, De Gaulle ne faisait qu'illustrer le fait qu'il existait dans le pays une solide permanence du bonapartisme. Il était renvoyé à la figure d'un passionné du pouvoir absolu. François Mitterrand se présentera aux élections, mais vous le savez, à cause des critiques qu'il avait formulées au régime, Pierre Mendès-France déclinera à deux reprises la possibilité de se porter candidat à la présidentielle du fait de son désaccord avec les institutions. Et toute une partie de la droite favorable à l'Algérie française, de son côté, s'était aussi opposé avec virulence à un mode d'élection du président qui parachevait la construction d'un régime ONI. On peut dire que les deux tiers de la classe politique, au moins, avaient ainsi appelé à voter non au référendum de 1962. Mais c'est à 62% que les Français approuveront la réforme proposée. C'est-à-dire que beaucoup d'entre eux ne voyaient pas dans l'homme du 18 juin la figure d'un apprenti dictateur. Mais ce résultat traduisit aussi le fait que les électeurs avaient vu dans cette réforme un progrès démocratique, le peuple se trouvant doté d'une importante prérogative supplémentaire. Et le fait est, à l'inverse, que les opposants n'avaient pas cherché à argumenter sur le terrain de ce qu'était un gouvernement démocratique. Soit ils s'étaient contentés, comme François Mitterrand, de dénoncer de façon assez générale ce qu'il avait qualifié de « démocratie en trompe-l'œil », soit ils ne faisaient que reprendre les vieux arguments de plus en plus inaudibles fondant la souveraineté parlementaire sur la reconnaissance d'une hiérarchie de fait entre représentés et représentants. D'où l'acceptation progressive du régime présidentiel en France qui, du point de vue des citoyens, réside aujourd'hui avant tout dans l'élection du chef de l'État au suffrage universel. Et les clubs, qui avaient d'abord été bien isolés à gauche pour défendre ce type de régime, virent ainsi progressivement et silencieusement les grands partis se ranger à leur côté. L'implication des citoyens dans le scrutin présidentiel, autant que leur intérêt pour la campagne qu'ils précédaient, donnant à cette procédure sa légitimation pratique. Ce n'est pas étonnant, si l'élection est la procédure démocratique reine, alors la démocratie plébiscitaire est une de ses modalités d'achèvement sous l'espèce banalisée du présidentialisme. Mais il y a une tendance naturelle à l'illibéralisme dans la présidentialisation des démocraties. Elle tient à la force de légitimation de l'exécutif qui lui est procéduralement liée. Et ce, d'autant plus que l'élection établit dans ce cas un lien direct, c'est-à-dire sans la médiation organisée des partis, entre le peuple et la tête de l'exécutif, qui donne donc une sorte de super-légitimité par rapport aux formes d'élection indirectes qui mettent en place un régime représentatif. Cette distinction implicite entre légitimité faible du pouvoir législatif, expression des divisions partisanes, et légitimité forte de l'exécutif a été au cœur de la vision gaulliste. De Gaulle s'en est longuement expliqué dans une célèbre conférence de presse du 31 janvier 1964. L'esprit de la Constitution nouvelle, avait-il alors dit, consiste, tout en gardant un Parlement législatif, à faire en sorte que le pouvoir ne soit plus la chose des partisans, mais qu'il procède directement du peuple, ce qui implique que le chef de l'État, élu par la nation, en soit la source et le détenteur. Pratiquement critique, je l'ai déjà dit, du modèle présidentiel américain, qui impliquait une stricte séparation des pouvoirs qu'il jugeait inapplicable en France du fait de la rigidité des divisions partisanes, de Gaulle l'était encore plus intellectuellement. Le présidentialisme était en effet pour lui un synonyme de légitime concentration des pouvoirs. Il l'a dit dans cette conférence de presse, dans des termes sans équivoque, qui, curieusement, n'ont été que peu répandus et qui sont édifiants. Il doit être évidemment entendu, avait alors dit de Gaulle, que l'autorité indivisible de l'État est confiée tout entière au président par le peuple qui l'a élu, et qu'il n'en existe donc aucune autre, ni ministérielle, ni civile, ni militaire, ni judiciaire, qui ne soit conférée et maintenue par lui. La distinction entre les fonctions et le champ d'action du chef de l'État et ceux du Premier ministre n'était ainsi pour lui qu'une sorte de commodité gestionnaire qu'il reconnaissait dans les temps ordinaires. Et cette vision explicitement illibérale n'a été assouplie en quelque sorte qu'en l'étant mise en œuvre de façon retenue. Mais elle aurait pu logiquement aussi conduire à la justification d'un gouvernement franchement autoritaire, comme en témoigne son interprétation intégraliste dans certains cas. Puisque si l'on prend par exemple toutes les théories contemporaines de la démocratie souveraine qu'il y a dans un certain nombre de pays de l'Est, dans l'Ouzbékistan ou qu'il y a en Russie, c'est cette vision de la concentration légitime liée au fait qu'il y a une super légitimité par rapport à celle du Parlement. Et on notera encore à ce propos du régime gaulliste que les dispositions constitutionnellement les plus novatrices et la franchement libérale de la Constitution de la Ve République avaient en fait un fondement antiparlementaire. C'est cette façon qu'il faut comprendre l'introduction du contrôle de constitutionnalité, même s'il n'a été qu'embryonnaire au début et qu'il s'est véritablement construit progressivement. C'est en effet pour se donner un moyen d'encadrer le Parlement et d'encadrer les partis, donc, que ce Conseil avait été institué, et nullement dans la perspective, qui aujourd'hui est dominante, d'une défense des droits fondamentaux. L'autre face complémentaire de ce régime, on le sait, a consisté dans la mise en place de ce qui était qualifié de parlementarisme rationalisé. Le parlementarisme rationalisé, on désigne par ce terme les formes de systèmes parlementaires qui sont encadrées par tout un ensemble de dispositifs qui sont destinés à prévenir les risques d'instabilité gouvernementale chronique, comme ceux de la IIIe et la IVe République ou en Italie. Et les dispositifs du parlementarisme rationalisé consistent pour l'essentiel à encadrer la mise en œuvre de la responsabilité ministérielle par des mécanismes procéduraux qui régissent le fonctionnement parlementaire. Le recours à la dissolution, la mise en place de délais contraignants pour le dépôt d'une motion de censure, des conditions éventuelles de majorité renforcées pour valider une telle motion, etc. Le but est aussi, dans un deuxième temps, de mettre en place des procédures permettant l'expression plus forte de majorité nette, par la limitation de la proportionnelle, des modalités d'accès à un second tour, etc. Et le but est dans tous les cas, avec le parlementarisme rationalisé, de protéger l'exécutif vis-à-vis du législatif. Et le premier pays à avoir adopté un retour au parlementarisme et adopté ce parlementarisme rationalisé, c'était l'Allemagne. L'Allemagne s'est engagée dans cette direction en mettant notamment en place un système contraignant d'exercice d'une motion de censure. Cette motion de censure ne pouvant être mise en œuvre qu'à la condition positive d'être déclenchée par une opposition susceptible, capable de constituer une majorité cohérente. En Grande-Bretagne, c'est de son côté le recours à la dissolution qui a constitué ce mécanisme de renforcement de l'exécutif, en le rendant de fait maître du calendrier électoral. Et comme vous le savez tous, en Grande-Bretagne, il est extrêmement fréquent qu'un Parlement n'arrive pas à son terme, mais que le gouvernement choisisse le moment où il estime opportun de procéder à une élection générale. Et la Ve République, là, marquera évidemment une rupture très forte dans l'adoption de ce parlementarisme rationalisé, notamment avec le fameux article 49 de la Constitution. Cet article 49 qui fixera les conditions de majorité pour qu'une motion de censure soit acceptée. Il y a un renversement de la preuve, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait... Les indécis qui sont abstenus ne sont pas pris en compte. Donc c'est une majorité nécessairement positive, alors qu'avant, ça pouvait être classiquement une majorité négative. La majorité n'arrive plus à se constituer. Et de la même façon, l'article 49.3, bien connu, qui est un engagement de responsabilité, qui permet au gouvernement de forcer la main au législatif en permettant qu'une loi ne soit pas votée s'il n'y a pas de dépôt d'une motion de censure par l'opposition, ou si ce dépôt qui a généralement lieu quand le 49.3 est mis en œuvre, elle est généralement rejetée. Donc ce sont aussi une méthode pour forcer la main, si je puis dire, du législatif. Indépendamment donc de l'élection ou pas au suffrage universel du chef de l'exécutif, il y a donc eu partout ce mécanisme de rationalisation du parlementarisme à des degrés divers qui permet d'accroître le rapport de force, si on peut dire, entre l'exécutif et le législatif. Le seul pays à ne l'avoir fait que très tardivement et de façon limitée, c'est l'Italie. Le régime institué en France par le général de Gaulle apparaissait à bien des égards au début des années 1960 comme singulier dans le monde, fortement marqué par la personnalité de son fondateur et les circonstances troublées de son retour au pouvoir au moment du conflit algérien. Et nul n'aurait alors songé le considérer comme un modèle préfigurant une évolution d'ensemble des démocraties. Il est en tout cas resté bien isolé en Europe, d'abord du fait de la forte permanence des monarchies constitutionnelles sur le continent, en Grande-Bretagne, en Belgique, au Luxembourg, au Danemark, en Suède, en Norvège, du fait de la marque imprimé dans les mémoires par les désastres de l'entre-deux-guerres aussi. Mais tout va progressivement changer, et rapidement, sur le continent même, mais également à l'échelle du monde. Le mouvement de décolonisation en Afrique va donner le premier signal d'une extension à ce continent de la démocratie présidentialiste. D'abord absent de la plupart des constitutions rédigées sur le modèle français, le principe de l'élection suffrage universel direct du chef de l'exécutif va progressivement se diffuser. Suivant cela, la réforme adoptée en métropole en 1962. Madagascar en 1962, le Sénégal ainsi que la Centrafrique en 1963 importeront la procédure. La situation a certes souvent été très complexe sur le continent africain francophone. De nombreux régimes ayant adopté au moment de l'indépendance un système de parti unique, le principe de l'élection populaire ayant alors été, dans certains cas, dissocié de toute compétition pluraliste, puisqu'il y avait élection populaire, mais avec un seul candidat. Et 50 ans après l'émancipation de la tutelle coloniale, la situation reste toujours, comme on le sait, complexe et mouvante sur un continent où les guerres civiles et les coups d'État n'ont cessé de se multiplier, même si maintenant la tendance au système pluripartisan tend à se développer. Mais, mis à part aujourd'hui le cas de la monarchie marocaine, la présidentialisation des régimes dessine partout l'horizon considéré comme naturel et souhaitable, et s'est largement imposé au début du XXIe siècle. En Asie et en Amérique latine, la sortie des dictatures et l'évolution des régimes parlementaires a enclenché un mouvement allant dans la même direction. Sur ces continents, comme en Afrique, l'élection suffrage universel de la tête de l'exécutif s'est certes inscrite dans des contextes très variés, allant de régimes authentiquement démocratiques à des variantes du césarisme ou de formes charismatiques de leadership. Mais le fait est que, là aussi, le présidentialisme s'est imposé comme forme du bon régime. Pour ne prendre que le seul exemple de l'Amérique latine, il n'y avait au début des années 1980 que trois pays en Amérique latine dans lesquels le président a été élu au suffrage universel dans le cadre d'une élection compétitive. La Colombie, le Costa Rica et le Venezuela. Juste un petit peu avant 81, il y avait toujours le Chili. Enfin, voilà, il n'y avait plus le Chili. Mais 30 ans plus tard, la procédure s'est généralisée, à l'exception de Cuba. En Europe même, la situation a considérablement changé. Pas dans la vieille Europe, puisque c'est un fait notable. Dans la vieille Europe, il n'y a toujours que 6 pays dans lesquels le président est élu au suffrage universel. Et avec des présidences qui ont des régimes et des pouvoirs fortement différenciés. L'Autriche, la Finlande, la France, l'Irlande, l'Islande et le Portugal. Situation qui n'a pas bougé depuis les années 1970. On peut dire que le modèle parlementaire reste, parlementaire rationalisé, reste ainsi dominant sur ces terres d'invention. Que la parlementarisation des démocraties n'a pas produit ses effets en Europe, à cause du fait qu'il s'est maintenu sous une forme rationalisée, ce parlementarisme, et du fait des monarchies parlementaires. Mais à l'est de l'Europe, l'effondrement du bloc soviétique a eu pour caractéristique d'entraîner dans tous les pays concernés une conversion à la présidentialisation, qui constitue, avec ce basculement, du même coup, une référence universelle de fait, qui n'est plus contournée que par les régimes plus ou moins ouvertement despotiques ou les démocraties les plus anciennes, ce qui est un sujet de réflexion. En 1974, Maurice Duverger, une des grandes figures du droit constitutionnel français de l'époque, publie un ouvrage au titre provoquant « La monarchie républicaine ». Il y expliquait que le pouvoir de gouverner appartenait en France à un homme, investi de la légitimité suprême grâce à l'onction du suffrage universel, qui prenait ou inspirait toutes les décisions importantes et conduisait la politique de la nation. Un monarque, en somme. Mais un monarque républicain, parce que élu dans un scrutin ouvert, disposant d'un mandat limité dans le temps et soumis tout de même à des formes de contrôle juridictionnel ou parlementaire. Avec ce titre d'ouvrage, Duverger ne faisait qu'employer à 60 ans de distance des mots propres, des mots proches, je les ai cités dans un cours précédent, de ceux de Léon Blum, qu'il avait utilisé en 1917 pour qualifier le type de gouvernement efficace et structuré qui devait pour lui alors constituer l'horizon positif des démocraties. Dite dans l'Hexagone au seuil des années 70, cette formule pouvait paraître pour beaucoup banale et évidente, tant le régime gaulliste avait justement été dénoncé pour avoir pris ce visage de monarchie républicaine. Mais le cœur du propos de Duverger n'était pas de joindre sa voix à ses critiques. Il était de souligner qu'au-delà des différences formelles, toutes les grandes démocraties étaient en train d'évoluer dans cette direction. Les têtes de l'exécutif n'étaient alors certes pas élues directement, en Allemagne, au Canada, en Grande-Bretagne ou en Suède, par exemple. Mais estimait-il, et c'était la pointe de son analyse, c'était à la faveur de ce qu'il appelle des élections masquées que les premiers ministres de ces pays étaient arrivés au pouvoir. Les élections législatives étant devenues chez eux l'équivalent, sur le fond, d'élections présidentielles. Voilà ce que disait Duverger. Quand on considère les assemblées de ces pays, on qualifie ces régimes à juste titre de parlementarisme majoritaire, mais quand on regarde leur gouvernement, on doit parler de monarchie républicaine. Une autre voix, celle d'un universitaire irlandais, Brian Farrell, avait alors fait le même constat. Dans presque tous les systèmes politiques, avait-il noté, la domination de l'exécutif et la personnification de cet exécutif par un seul leader est devenue un fait central de la vie politique. Ces analyses de la convergence des formes effectives de l'exécutif, au-delà de leur spécificité fonctionnelle, selon les régimes, allaient plus loin que les appréhensions précédentes du phénomène de personnalisation du pouvoir. Ces appréhensions précédentes de personnalisation du pouvoir étant simplement souvent liée à la simple considération des conséquences de la montée en puissance des médias audiovisuels dans le domaine politique. Irruption des médias qui dilatait de cette sorte la dimension classique du leadership. La notion de personnalisation, il faut le rappeler, n'avait en outre pas d'abord été appliquée à la compréhension des démocraties. Historiquement, on l'a longuement présentée dans ce cours, elle avait au premier chef été considérée comme un attribut structurel des régimes despotiques, en étant superposée avec le fait d'une individualisation du pouvoir, synonyme là de concentration illibérale des pouvoirs. Parler de personnalisation du pouvoir à propos des démocraties représentait donc une formidable rupture intellectuelle, puisque l'idée démocratique avait été historiquement liée, comme on l'a longuement vu, à l'idée d'impersonnalité. Au-delà de l'impératif médiatique, il faut donc bien comprendre quelles ont été la nature des ressorts proprement démocratiques de cette personnalisation. Ils sont, à mon sens, de trois ordres. D'abord, la demande sociale d'un régime lisible d'imputation de la responsabilité. Cette demande d'imputation de la responsabilité va de pair avec une simplification des pouvoirs autour d'un pôle actif et d'un pôle critique, qui traduit l'entrée, dont j'ai déjà parlé, dans un nouvel âge de la division des pouvoirs. Dans les gouvernements représentatifs aristocratiques classiques, disons, cette demande prend une forme qui s'est d'une certaine façon privatisée. Elle n'implique pas les citoyens et l'exercice de la responsabilité reste interne au monde politique, au fonctionnement parlementaire. Là, il y a cette nouvelle demande lisible d'imputation de la responsabilité, qui est le fait d'un développement démocratique. Il y a aussi ce que j'ai déjà mentionné précédemment dans un des premiers cours, les formes de demande sociale de volonté. Elle se lie à un renforcement de l'exécutif qui est par nature polarisé, c'est-à-dire qu'il doit avoir cet exécutif un visage auquel s'identifier. Cette personnalisation de la volonté, elle est à la fois une nécessité et un piège. Une nécessité, car elle doit effectivement être visible. Et un piège, car elle risque en permanence, pour cette raison, de dégénérer en volonté spectacle, aboutissant à accroître le divorce entre les hommes de parole et les hommes d'action. Les premiers, les hommes de parole, masquant leurs échecs en les attribuant à des forces contraires, des forces du mal, des forces négatives. Cette opposition des hommes de parole et des hommes d'action, qui avait été fondamentale dans la considération de l'analyse de la Révolution française, est donc à prendre en compte dans la façon dont cette demande de volonté peut se manifester. En troisième lieu, insertion dans ce qu'on pourrait appeler une économie de la lisibilité du fonctionnement des institutions et des mécanismes de prise de décision. Dans un monde gouverné par la complexification de ses processus et de ses modes de régulation, comme par l'anonymat du monde bureaucratique, il y a une demande de rétablir la fiction d'une simplicité et d'une visibilité. Et la personnalisation permet d'une certaine façon de produire un autre ordre de réalité de cette façon. Il y a donc une demande objective de responsabilité, mais il y a également la formation, on pourrait dire, d'une fiction de lisibilité et d'une économie aussi, pourrait-on dire, spectaculaire de la volonté. Incarnation et polarisation des pouvoirs se superposent ainsi pour reconstruire une réalité que l'on voudrait rendre malléable et gouvernable. Ces deux éléments se retrouvent dorénavant dans les différentes formes de régime en démocratie. Et Maurice Duverger et Brian Farrell étaient sur ce point tout à fait fondés à proposer un qualificatif unique pour caractériser cette superposition. Cela revient en fait à enrichir et à construire théoriquement, et non plus seulement psychologiquement, la notion de pouvoir personnalisé. La présidentialisation renvoie pourtant à une dimension supplémentaire. Elle n'est pas simplement personnalisation du pouvoir. Elle qualifie aussi un mode de légitimation de ce pouvoir exécutif personnalisé. Elle considère ainsi le pouvoir dans sa dimension de relation avec la société. Et elle met en même temps l'accent sur la dimension de légitimité d'autorisation. Légitimité mise en avant par rapport à la légitimité d'exercice, ce qui crée d'ailleurs une des tensions essentielles inhérentes au présidentialisme démocratique entre autorisation et exercice. Cette présidentialisation a épousé des formes très diverses selon les lieux et les époques, tant du fait de leur cadre constitutionnel précis que de celui de la personnalité individuelle des chefs d'État. Et si la figure du grand homme a pu être associée à ce modèle au moment de son émergence, la stature du général de Gaulle, qui a à la fois constitué une image et un écran, l'expérience a montré que la norme présidentielle était progressivement devenue beaucoup plus modeste. Et on a ainsi pu parler, pour qualifier la Ve République, de césarisme sans génie. En termes institutionnels, il y a ainsi loin de la vision première grandiose à cette réalité de la banalisation présidentielle. Et de la diarchie présidentielle à la française, dont la forme évolue d'ailleurs fortement selon que l'on se trouve dans un régime normal ou en période de cohabitation, il y a loin au modèle plus classique, pourrait-on dire. Y a-t-il une alternative à cette forme de présidentialisation des démocraties ? Il n'est pas difficile de faire la liste des griefs susceptibles d'être adressés à ce que Laurence Morel, qui interviendra dans le séminaire, a appelé une démocratie plébiscitaire routinisée, qui dessine ce mouvement contemporain de présidentialisation de l'exécutif. On peut distinguer quatre griefs, qui ont souvent été formulés d'ailleurs à partir de l'examen du cas français. Premièrement, la conséquence en termes d'exacerbation du désenchantement démocratique. L'élection présidentielle est en effet celle qui suscite le plus d'intérêt de la part des citoyens. La campagne et les débats qui lui sont liés mobilisent fortement l'attention et le taux de participation électorale est dans ce cas notablement plus élevé que celui de tous les autres scrutins. Mais l'appréciation de la pratique gouvernementale marque souvent une rupture avec la force des attentes manifestées dans la campagne. Il y a ainsi un écart presque mécanique qui se creuse entre ce qu'on peut appeler un taux d'attente et un taux de déception. Le taux d'attente, il est aiguillonné par la dynamique de la campagne. Et on peut dire que ce taux d'attente est symbolisé par la participation électorale. Mais le taux de déception est ce qu'enregistrent ensuite les sondages qui mesurent à leur façon, même si les variations de cet écart renvoient bien sûr aux personnalités impliquées ainsi qu'au contenu de leur action, au fait tout de même de ce qu'est la réalité du pouvoir dans le temps. Cette distinction entre taux d'attente et taux de déception a justement été formulée dans un article de Pierre Brunet et d'Arnaud Lepilouer qui est paru dans La Vie des idées en octobre 2011. Et cet écart entre taux d'attente et taux de déception peut aussi s'appréhender parallèlement à partir de ce divorce que j'ai précédemment mentionné entre légitimité d'autorisation et légitimité d'exercice. Deuxième point de critique, deuxième grief, la déficience d'articulation entre pouvoir et responsabilité. Le propre du pouvoir présidentiel, tel qu'on le rencontre dans la Ve République, pour ne parler que d'elle, est en effet d'être irresponsable. Il est irresponsable au sens politique du terme, s'entend, même s'il est d'ailleurs aussi pénalement irresponsable dans le cadre de ses fonctions. C'est-à-dire qu'il ne peut être contesté et mis en échec dans des termes qui conduisent à le forcer à se démettre de son mandat. C'est ça la responsabilité. Cette déficience prend sa source dans le fait même de son élection. Tout élu est en effet structurellement irresponsable du fait de son lien aux électeurs, sauf révocation pour certaines catégories dans certains pays, pour certaines catégories d'élus dans certains pays, c'est le recall, et sauf impeachment, haute trahison ou incapacité constatée d'exercer une charge. Mais il n'y a pas de possibilité de démettre d'un mandat un élu. Alors qu'un exécutif non élu, qui dépend de la majorité parlementaire, et lui, évidemment, susceptible d'être démis et d'être mis en minorité. En France, si le président procède à une dissolution et qu'il perd les élections, il reste en place. Mais sa sanction, c'est que s'ouvre une période de cohabitation qui revient à considérablement amoindrir ses prérogatives, notons-le cependant. Mais l'argument reste cependant politiquement fort, à défaut d'être techniquement. C'est qu'une pleine responsabilité implique la non-élection, puisque l'élection est une forme de protection de la responsabilité. Troisième grief, c'est le fait qu'il y a deux corps du président. Un président élu présente deux visages. Il est à la fois le représentant de la nation, il est, si l'on veut dire, figure du corps civique en son unité, et il est, d'un autre côté, l'expression d'une majorité limitée, qui correspond à une coalition spécifique. Et il y a un rapport conflictuel permanent entre ces deux dimensions du personnage qui alimente aussi des attentes contradictoires. Et ce, d'autant plus que la nature des soutiens ou des attaquants politiques évolue et ne reproduisent pas de façon stable dans le temps l'état des rapports de force constatés au moment de l'élection. Et donc que cette tension entre les deux corps du président est d'autant plus vive qu'elle se redessine en permanence. Il y a en effet, bien sûr, je ne le mentionne simplement sans développer, c'est évident, les effets pervers de la personnalisation à l'âge de la médiatisation. Mais leur dénonciation de ces effets de la personnalisation était déjà faite préalablement. Ce n'est pas simplement l'âge des médias qui est en cause, puisque l'opposition entre la politique des idées et la politique des personnes, je dirais, est au cœur de la réflexion sur les débuts de la démocratie. Peut-on résoudre dans une reformulation démocratique ces tensions, ces apories, ces déficits qui tiennent compte de ces griefs ? Pour m'en tenir au cas français et pour parler un peu d'éléments relativement d'actualité, c'est se contenter à leur façon ceux qui sont prononcés en France pour la mise en œuvre d'une sixième république. Leur perspective, même s'ils ne le font pas sur, je dirais, la base intellectuelle que j'ai mentionnée là, mais ils critiquent notamment l'absence de responsabilité. C'est ça le problème clé. Et leur perspective a clairement été de rompre avec un cinquième république en s'inspirant d'autres modèles. Ceux qui, en France, ont proposé cette idée de sixième république l'ont d'ailleurs fait en se réclamant ouvertement du régime primo-ministériel à l'anglaise. Et dans leur plan, le Premier ministre doit être nommé par le président, mais ce dernier doit pour cela tenir compte de la volonté nationale et de la majorité de l'Assemblée nationale. L'universitaire qui a lancé la réflexion et le slogan « la sixième République », c'est un professeur de Paris 1 qui s'appelle Bastien François. Et c'est auprès de ses écrits que se sont alimentés tous ceux ensuite qui, dans le monde politique, ont repris l'idée. Et donc, le Premier ministre est nommé par le président, mais le président, à ses yeux, doit être contraint, parce qu'il doit tenir compte de la majorité de l'Assemblée, c'est-à-dire qu'il doit nommer, comme la reine en Angleterre, si je puis dire, le chef de la coalition qui a gagné les élections. Et il ne peut le révoquer. Ce Premier ministre, rendu plus autonome, a, dans cette perspective, des pouvoirs accrus. Pour ce partisan de la Sixième République, le Premier ministre doit choisir et nommer les ministres, et c'est même le Premier ministre qui doit fixer l'ordre du jour du Conseil des ministres, même s'il ne le préside pas. Et pour ne pas retomber dans les ornières du gouvernement d'Assemblée, du type de celui des Troisième et Quatrième Républiques, il est noté que ce Premier ministre peut détenir des pouvoirs qui lui donnent une certaine marge de manœuvre pour mener sa politique. Continuation du parlementarisme rationalisé, pour faire vite. Il dispose en outre du droit de dissolution. Ce n'est plus le président, mais le Premier ministre. Droit de dissolution. Le Premier ministre peut soumettre à référendum tout projet de loi et il peut recourir au dispositif du 49.3 actuel pour forcer l'adoption, notamment de la loi de finances, ça qui est clé. Et ce Premier ministre, qui est non élu par le peuple, il est bien sûr responsable devant l'Assemblée. Ce projet de sixième République maintient l'élection au suffrage universel du président de la République, qui disposerait d'un mandat allongé à 7 ans, mais celui-ci se verrait cantonné à des fonctions d'arbitrage, sans avoir des prérogatives gouvernantes propres, même en matière de politique étrangère, puisqu'il est noté qu'il est simplement informé par le gouvernement de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international. On notera que ce projet ne dit rien des conflits de légitimité liés à l'élection au suffrage universel d'un président, tandis que le Premier ministre ne bénéficierait que de la légitimité d'une élection cachée. Et c'est là que le bât blesse. Et c'est pourquoi les critiques les plus cohérentes du présidentialisme contemporain concluent à un retour à l'élection parlementaire de ce président-arbitre. Mais la question des déséquilibres mentionnés, elle subsiste dans tous les cas. Et on ne peut pas effectivement défendre le mouvement de présidentialisation contemporain simplement au nom d'un impossible retour en arrière. Car il est vraiment frappant de constater que beaucoup de personnes qui peuvent critiquer l'élection au suffrage universel ne rentrent pas dans la discussion, pourrait-on dire, constitutionnelle, technique, mais disent « politiquement, ce serait impossible ». Mais c'est dans une autre direction qu'il faudra se tourner pour définir institutionnellement un pouvoir exécutif démocratique. Définir un pouvoir exécutif démocratique, ce n'est pas simplement revenir à des formes de parlementarisme, même si les critiques qui amènent à souhaiter ou penser ce retour au parlementarisme sont justifiées. Il s'agira de définir justement cette légitimité d'exercice et ce que peut être une action gouvernementale démocratique en reconnaissant que l'Europe a une particularité. C'est que son histoire longue, son histoire vieille, fait que paradoxalement, elle est et elle restera probablement longtemps le continent le plus à l'écart du mouvement de présidentialisation des démocraties. Mais ce mouvement, qui est partout à l'œuvre, il faut bien trouver les moyens de lui donner une assise théorique. Et cette assise théorique, elle est celle d'une réflexion sur le gouvernement démocratique contemporain. Ce sera l'objet de mon cours l'an prochain, mais nous commencerons à en voir des éléments avec le séminaire qui commencera dès la semaine prochaine. Je vous remercie.